Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus, un magazine de Radio Campus consacré à l'université Lille. Nous accueillons aujourd'hui Faustine Dubard, qui est doctorante à Lille et qui va donc présenter un petit peu ses travaux et ce pourquoi ils ont été remarqués. Donc, Faustine Dubard, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez eu une bourse d'une, on va dire, une fondation regroupant plusieurs partenaires.
Oui. Donc, effectivement, j'ai obtenu une bourse donc, de la part de la Fondation L'Oréal, de l'UNESCO et de l'Académie des sciences. Donc, cette bourse m'a été remise le 10 octobre dernier et comporte un prix de 10 000 euros qui me permettra de valoriser mes travaux de recherche par la suite.
Cette bourse, elle est octroyée à plusieurs personnes en France au même moment. Comment ça se passe?
Alors oui, effectivement, donc il y a eu un appel à candidature qui a été lancé et il y avait 10 bourses sur l'ensemble de la France. Donc pour 10 bourses, il y a eu à peu près 450 dossiers déposés.
Mmh. Est-ce qu'il existe d'autres types de bourses du même niveau en France? Est-ce que vous avez postulé à d'autres fondation, on va dire.
Alors, effectivement, il existe d'autres bourses. Alors, cette bourse que j'ai obtenue est particulière puisqu'elle récompense uniquement les femmes dans la science pour justement régler un peu les problèmes d'inégalité qu'il peut y avoir. Et il existe effectivement d'autres types de bourses qui récompensent des chercheuses. Donc, il y a la bourse Joliot-Curie qui existe. Après, il en existe un tas d'autres.
Mmh. Vous pouvez postuler à plusieurs ou...
oui. Oui, tout à fait. On peut très bien postuler à plusieurs bourses. On peut très bien cumuler ces prix.
Donc là, vous avez eu une distinction, on va dire, pour vos travaux et notamment pour vous encourager en tant que femme scientifique.
Voilà, c'est ça. Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos travaux, justement, en tant que doctorante?
Oui, tout à fait. Donc je prépare un doctorat en chimie organique. Et donc mes travaux se portent dans le domaine de la recherche antipaludique. Donc le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui touche essentiellement les pays d'Afrique à 90% et qui tue environ 1 million de personnes par an. Donc c'est une maladie qui est très importante mais qui est aussi négligée du fait qu'elle concerne uniquement les pays pauvres. Donc mes travaux de recherche consistent à développer de nouveaux médicaments contre le paludisme. Donc ça, c'est le premier axe de ma thèse, puisqu'en fait, j'ai la chance de travailler sur un sujet double, dans le sens où je travaille d'un côté sur une partie très appliquée. Là, je conçois, je synthétise et j'essaie de trouver de nouveaux traitements. Et une partie beaucoup plus fondamentale dans laquelle j'essaie de comprendre comment fonctionne une molécule qui est actuellement en test chez l'homme et qui s'appelle la ferroquine. Donc cette molécule a été développée il y a une quinzaine d'années par l'Université de Lille, justement. Et elle est en test avec la Sanofi en Afrique, au Gabon. Et on essaye de voir s'il n'y aura pas trop d'effets secondaires et si on va pouvoir la passer dans une phase supérieure aux essais cliniques pour pouvoir après la commercialiser. Donc moi j'essaye de comprendre comment cette molécule fonctionne pour essayer justement après d'avoir un modèle pour concevoir plus intelligemment les molécules du futur.
Donc le paludisme, c'est une maladie qui fait peur aussi aux gens qui vont à l'étranger dans ces pays-là et qui reviennent parfois malades. Bien sûr, la plupart des gens malades sont sur place, on va dire. On connaît quelques médicaments qui sont plus ou moins préventifs du paludisme.
Alors effectivement, il existe des médicaments que l'on peut prendre en prophylaxie, donc en prévention avant de partir. Et après, si jamais on avait contracté la maladie, il existe des traitements. Donc en fonction de la région du monde dans laquelle on a contracté le paludisme, on aura un traitement ou un autre, puisqu'en fait le parasite peut être différent selon les zones géographiques.
Donc ce parasite, il est injecté, on va dire, par les piqûres d'un insecte assez répandu dans le monde.
Voilà, alors en fait, effectivement, c'est les moustiques qui transmettent le parasite du paludisme. Mais alors déjà, il faut savoir qu'il y a uniquement les anopheles femelles, donc c'est un type de moustique, et c'est uniquement les femelles qui piquent. Ensuite, au niveau des anopheles, il existe énormément d'espèces, et il n'y en a qu'un certain nombre qui sont appelées compétentes et qui sont capables de transmettre le paludisme. Après, il y a encore une autre condition, c'est que pour infecter l'homme, il faut que le moustique soit chargé avec le parasite qui peut infecter l'homme, puisqu'il existe différentes espèces. Il y a des espèces qui peuvent atteindre les animaux, les singes, etc. Et il y a des espèces spécifiques à l'homme, et il en existe 5 espèces différentes. Mmh.
Quelle est la probabilité qu'un habitant d'un pays où il existe ce type de moustique soit infecté, soit victime, contaminé?
Alors c'est variable dans le sens que les personnes qui habitent ces régions, il y a un pourcentage déjà de cette population qui a développé une immunité au paludisme. Et après il y a des, on va dire au niveau, pardon, au niveau des piqûres, il y a énormément de piqûres qui vont être faites chaque nuit. Donc au niveau de la prévention contre le paludisme, on va retrouver effectivement tout ce qui est médicaments, mais on va retrouver aussi toute une série de préventions plutôt techniques, comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides pour prévenir justement les piqûres pendant la nuit. Mais alors il faut savoir qu'en Afrique, ce n'est pas une ou deux piqûres comme on peut avoir ici en France quand on se fait piquer par un moustique, ça peut être des cinquantaines, des centaines de piqûres pendant une nuit. Donc c'est vrai que la probabilité du fait augmente. Mmh. Après, je ne peux pas vous donner un chiffre concret puisque ça dépend des personnes, ça dépend des régions du monde. Mmh.
C'est un fléau qu'on a bien connu, dont on a parlé longuement, dans les médias notamment. Est-ce que vous jugez qu'il est en recrudescence ou plutôt en voie de diminution?
Non, alors je ne parlerai pas de recrudescence, au contraire, puisqu'on commence à maîtriser le palu. Il y a certaines régions du monde où on a constaté vraiment une bonne diminution du paludisme, dû au fait que on a une bonne médiation au niveau des personnes. On essaye vraiment de leur expliquer comment il faut prendre leur traitement, comment ils peuvent se protéger également contre les moustiques. Et on agit à plusieurs niveaux. On agit au niveau du vecteur, qui est le moustique. On agit au niveau des patients, pour essayer de leur trouver des traitements efficaces. Et également de leur trouver des traitements peu coûteux pour qu'ils puissent se soigner également.
Cette maladie, donc le paludisme, est-ce qu'elle fait des morts, des victimes?
Oui, alors on recense environ 1 million de morts chaque année. Alors essentiellement en Afrique, puisque c'est 90% des personnes qui meurent, et essentiellement des enfants de moins de 5 ans.
Est-ce que les traitements sont efficaces justement pour empêcher les gens de mourir s'ils sont pris à temps? Est-ce que c'est systématique qu'ils arrivent à guérir?
Alors, il y a des morts, puis comme je vous l'ai dit, des personnes quelquefois qui sont soignées, donc soit elles sont prises trop tard, ou alors elles ont des formes de paludisme sévères. Notamment à une des espèces du parasite qui s'appelle Plasmodium falciparum et qui est l'espèce la plus dangereuse puisqu'elle est potentiellement létale. Elle va entraîner notamment des comas puis la mort des personnes. Donc ça dépend vraiment du moment où les personnes vont être traitées, de leur état de santé général, puisque comme c'est des populations pauvres, quelquefois elles ont des graves anémies, donc ça peut aussi augmenter le risque de décès. Et donc voilà. Mmh.
Donc, effectivement, pour la recherche, notamment à Lille, elle correspond à des partenariats qui sont faits avec des laboratoires ou à une volonté de Lille d'aller soutenir des pays qui sont en difficulté?
Alors, à la base, la recherche contre le paludisme a démarré, je dirais, un petit peu avec un partenariat avec le Gabon. Et puisque là-bas, il y a un fort taux de paludisme. Et donc, suite à la découverte de la ferroquine, il y a eu un partenariat qui s'est fait avec des laboratoires pharmaceutiques. Actuellement, le partenariat qui est fait, c'est avec Sanofi. Et c'est eux qui financent tous les essais cliniques pour développer la molécule qui a été développée à l'Université de Lille. Mmh.
Est-ce que l'État finance également cette recherche?
Alors dans un sens oui, puisque par exemple mon doctorat est financé par le ministère de l'Éducation, donc oui. Mmh.
Donc je suppose que pour ces laboratoires, il y a aussi un marché à développer?
Pour les laboratoires pharmaceutiques? Alors bon, concrètement, la recherche antiparasitaire humaine, Je ne parle pas de l'antiparasitaire animaux pour les animaux, mais l'antiparasitaire humain n'est pas le créneau qui va rapporter le plus aux entreprises pharmaceutiques. Ça va être plus un gage d'une bonne image, puisqu'on soutient des pays pauvres. Mmh. Après, les médicaments vont être des médicaments qui vont être fournis avec des prix très faibles. Et d'ailleurs, il y avait eu une intervention de la fondation Bill Gates qui avait fourni des médicaments à prix coûtant pour permettre les populations de se soigner avec des prix raisonnables et pour pouvoir se soigner sur la période pour laquelle ils doivent être traités. Donc, je pense pas que ce soit une affaire de gros sous, le paludisme. Au contraire, c'est plus une affaire d'image. Mmh.
Bon, même s'il n'y a pas de petits bénéfices.
Bien sûr.
Donc, ces médicaments, bien sûr, pour l'instant, comme ils sont en voie de développement, il n'y a pas de générique non plus.
Alors, en fait, tout dépend. En fait, il y a certains médicaments qui ont été développés il y a vraiment beaucoup d'années. Et donc, les brevets sont tombés dans le domaine public. Donc, après, tous les laboratoires pharmaceutiques peuvent exploiter les brevets.
Mmh. Donc... Alors, quelle est la valeur ajoutée de votre recherche? Qu'est-ce qu'elle amène de plus que ce qui existe déjà?
Alors, le problème avec cette maladie, c'est que le parasite est capable de développer des résistances aux thérapeutiques en général. Donc, il y a certaines molécules. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la chloroquine, qui est une molécule extrêmement connue dans le domaine du paludisme. Donc, cette molécule a connu de gros problèmes et connaît encore des problèmes de résistance. Et donc, le parasite a réussi à faire un mécanisme de défense contre les thérapeutiques. Donc ça fait qu'il y a certaines molécules, elles ne sont pas encore mises sur le marché, qu'on connaît déjà des problèmes de résistance. Donc ma recherche, elle intervient à ce niveau-là. On essaie de trouver des solutions à ce problème de résistance en essayant de comprendre pourquoi telle ou telle molécule a de la résistance, pourquoi on a une activité qui va être améliorée si on ajoute tel groupement chimique ou tel autre. Donc on essaie vraiment de comprendre comment notre molécule va agir aussi bien au niveau de son entrée dans le globule rouge, puisque moi, mes molécules agissent à ce niveau-là, puisqu'il y a différents stades au niveau du parasite. Moi, mes molécules agissent au niveau du globule rouge. Donc, on va essayer de comprendre comment elles vont entrer. Ensuite, comment elles vont entrer dans le parasite. Et une fois à l'intérieur, comment elles agissent pour tuer efficacement le parasite. Donc, j'essaie vraiment de comprendre comment tout cela fonctionne. Et ensuite, j'essaie de concevoir de nouvelles molécules qui, j'espère, ne rencontreront pas ces problèmes de résistance.
En fait, Dumas, on a bien compris qu'il y a là... un enjeu de santé publique et que c'est une course contre la montre qui est engagée par votre recherche.
Oui, tout à fait.
Donc qu'est-ce qu'on a comme atout pour aller plus vite, j'allais dire plus vite que d'autres, je ne sais pas, hein, mais en tout cas plus vite parce que là ça presse.
Alors, je ne parlerai pas de vitesse, je parlerai plutôt, on va dire, efficacité, ça serait peut-être un grand mot. Mais on est dans une course contre la montre, effectivement, mais on essaie vraiment de faire un travail raisonné. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On essaie vraiment de se reposer sur les erreurs justement qui ont pu être faites avant ou sur les échecs aussi qui ont été connus pour essayer justement de passer tous ces obstacles. Après, je ne vais pas dire que mon laboratoire est meilleur qu'un autre au niveau de la recherche antipaludique. Il y a énormément de groupes dans le monde qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont tous à des niveaux très hauts et qui apportent tous leur pierre à l'édifice. En fait, c'est un peu ce qui me plaît dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, on est vraiment en collaboration, tous les groupes travaillent vraiment ensemble, c'est vraiment une cause commune. Il existe un groupe franco-français qui s'appelle le Consortium antiparasitaire et qui a été créé il y a 2 ans à peu près, et j'ai pu assister à leur congrès, et c'est intéressant de voir comment tous les laboratoires français qui travaillent dans ce domaine mettent leurs efforts en commun, essayent de monter des collaborations pour contrer tous les problèmes du paludisme, mais aussi d'autres maladies qui peuvent être engendrées par d'autres parasites.
Est-ce que l'UNESCO, donc, qui a une vocation internationale, peut favoriser ce genre d'initiative et coordonner aussi?
Alors, je pense que oui, ils ont des actions. Après, moi, personnellement, j'en ai pas encore bénéficié. Mais oui, je pense qu'il doit exister quelque chose à ce niveau-là.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des scientifiques qui conseillent l'UNESCO utilement pour coordonner cette recherche?
Pas à ma connaissance.
Ce serait un souhait de votre part?
Oui, pourquoi pas. Il y a également l'Organisation mondiale pour la santé
oui.
qui a un gros pôle sur le palu et qui travaille aussi à essayer d'éradiquer ce problème de santé publique et qui a vraiment une vision globale de ce problème-là et qui essaye d'agir justement à tous les niveaux que j'ai cités tout à l'heure.
Mmh. Donc là, vous êtes déjà en phase, on va dire, de travaux consolidés. Vous avez des molécules qui existent, qui sont expérimentées.
Voilà, alors bon, il y en a une, comme je vous l'ai dit, qui a été développée il y a une quinzaine d'années. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai développée. Ça a été développé pendant le doctorat de mon directeur de thèse actuel, qui est le docteur Christophe Biot. Et après, moi, j'essaye justement d'en créer de nouvelles. Donc oui, elles sont testées. Pour le moment in vitro, c'est-à-dire qu'on va tester dans des petits tubes en verre grossièrement sur les parasites pour essayer de voir quel effet on va avoir, combien de parasites vont survivre après le traitement.
Mm-hmm.
Donc dans un futur, j'espère assez proche, on devrait les tester chez l'animal pour essayer de voir justement si on a une bonne absorption de la molécule, si on a toujours une bonne activité au niveau vivant, parce qu'en fait, des fois, quand on passe d'un test in vitro à un animal, on peut avoir une chute d'activité due au fait que la molécule est mal absorbée par l'organisme. Donc, les tests que l'on a sont pas mauvais, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour dire si on a réussi à développer d'autres molécules ou une famille de molécules intéressantes.
Alors, comme vous le disiez en début d'émission, cette maladie est diverse en termes de souches, on va dire.
Mm-hmm.
Et donc, pour l'homme, c'est encore quelque chose de particulier. Donc, tester sur les animaux, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'il faut passer très rapidement à une phase de test chez l'homme ?
Non, alors c'est utile hein, de passer chez l'animal déjà pour essayer de comprendre si on a des problèmes de toxicité.
Mmh.
Parce qu'une molécule, elle peut être efficace, mais on se rend compte après utilisation chez l'animal que en fait c'est efficace parce que bah, ça tue le parasite, mais ça peut aussi engendrer des dégâts au sein de l'organisme de l'animal. Donc si on passait directement chez l'homme, ça pourrait poser d'autres problèmes. Et d'ailleurs, quand les molécules sont testées ensuite chez l'homme, quand ça a passé tous les tests chez l'animal, avant de passer chez des personnes malades qui sont déjà affaiblies, on fait déjà les tests chez des personnes saines pour voir si on n'a pas de problème d'effets secondaires graves, si on n'a pas un développement d'anémie ou de choses comme ça qui pourraient encore affaiblir l'état général des patients qui ont déjà contracté le paludisme.
Mmh. Donc on se doute que tout cela sont des responsabilités importantes, même tester sur l'animal, c'est une réflexion qui est aussi dans l'esprit du temps. Hein. Comment vous arrivez à concilier les nécessités et puis aussi les pratiques qui peuvent être parfois critiquées, sinon critiquables ?
Oui, alors effectivement, on peut toujours, les défenseurs des animaux, et bon, j'ai pas un plaisir immense non plus à tester les molécules sur les animaux, mais c'est un passage obligé. Après, quand on teste les cosmétiques sur les animaux, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très... Il y a des modèles maintenant qui existent pour éviter de passer chez l'animal pour tout ce qui est cosmétique. Maintenant, pour les médicaments, ça reste un élément essentiel. On ne peut pas s'en passer, c'est sûr. Mais par contre, il faut le faire de manière intelligente. Déjà, il y a plein de protocoles qui existent pour ne pas faire souffrir l'animal, pour rien. Et également, on essaye de tester des molécules qui valent le coup d'être testées. On ne va pas aller tester une molécule qui a un semblant d'activité sur un animal juste pour le plaisir de faire le test. On essaye d'avoir vraiment une approche où on se dit, bah oui, on a quelque chose de très intéressant, donc ça vaut le coup de passer chez l'animal. On ne fait pas ça gratuitement.
Comme vous l'aviez dit, comme c'est une course contre la montre, l'essentiel est d'être efficace le plus vite possible.
Alors, il faut être efficace, oui, et il faut surtout, je pense, et ça c'est valable pour tous les chercheurs, être bien organisé au niveau de son travail. Donc moi, je suis en thèse, donc j'ai 3 ans pour mener mon projet de recherche.
Mmh.
Donc 3 ans, c'est très court pour mener un projet de recherche dans sa globalité. Donc je pense qu'à la fin de mes 3 ans, il restera encore du travail pour les futurs doctorants. J'espère qu'ils prendront la relève. Mais oui, il faut être efficace, il faut maîtriser son sujet, surtout pour ne louper aucun aspect de la recherche.
Donc, comme vous l'avez dit, une thèse, c'est sur 3 ans. Après ces 3 ans, vous ferez quoi ?
Alors après mon doctorat, donc j'espère pouvoir soutenir en septembre 2012, donc en septembre prochain. Et après, j'envisage de partir en Australie pour faire ce qu'on appelle un stage postdoctoral. Donc c'est une formation en gros de 2 ans où on est chercheur, on va dire senior, si on peut appeler ça comme ça, et où on mène une recherche, donc qui peut être dans le même domaine que sa thèse ou un domaine autre. Donc moi j'ai choisi de rester dans le domaine du paludisme, mais je ferai plus de chimie, je ferai de la biologie cellulaire.
Il y a des moustiques là-bas ?
Oui.
Il y en a presque partout dans le monde, forcément.
Oui, alors il y en a partout dans le monde. Après, les anopheles qui sont capables de transmettre le paludisme sont des anopheles qui vivent dans des conditions vraiment très particulières. Il faut vraiment beaucoup de caractéristiques réunies pour pouvoir engendrer le cycle du paludisme, qui reste un cycle très complexe. Donc, c'est vrai que comme on parlait tout à l'heure de pourcentage de chance d'attraper le paludisme, si on regarde tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avoir un parasite concret, on va dire, pour pouvoir transmettre la maladie grâce aux moustiques, c'est vrai qu'il faut énormément de conditions. Donc c'est vrai que là, on pourrait se dire le pourcentage finalement n'est pas si élevé que ça, mais c'est vrai que dans certaines régions du monde, les conditions sont idéales pour la prolifération de ce type de moustiques et donc pour la prolifération du paludisme.
Bon, chez nous, c'est plutôt les rhumes, ça s'entend d'ailleurs
oui,
aujourd'hui.
Oui.
Nos deux côtés sont bien pris à partie.
Oui.
Est-ce qu'il y a pour le chercheur ou pour les gens qui travaillent pour lui des risques de santé également ?
Au niveau du travail de recherche. Alors, donc oui, effectivement, moi je suis chimiste, donc je peux travailler avec des produits chimiques qui peuvent être nocifs. Après, c'est aussi une question de conscience de ce qu'on fait. Je pense que dans tous les métiers, on peut avoir des risques plus ou moins grands. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Quand on est chimiste, on a une formation à la base qui nous explique tous les risques qu'on peut avoir dans un laboratoire. Donc il y a des règles essentielles à respecter. Et c'est vrai que ça, on essaie de le transmettre aux étudiants quand on enseigne. Donc porter la blouse, porter des lunettes, si besoin, porter des gants. Donc en règle générale, on les conseille. Et donc moi, systématiquement, je travaille sous une hotte aspirante qui me permet de ne pas respirer les produits chimiques en permanence. Et si vraiment il y a un risque encore plus grand de respirer ou d'avoir des vapeurs qui peuvent être vraiment toxiques, par exemple l'utilisation de composés cancérigènes, là je mets un masque avec des grosses cartouches, à la Dark Vador, comme mes collègues peuvent m'appeler en rigolant. Mais au moins, on se protège. Le tout, c'est de connaître le risque. Je pense qu'à partir du moment où les choses sont faites avec toute la conscience nécessaire, le risque devient pratiquement égal à zéro.
Mais Faustine Dubard, portez-vous bien, soyez prudente, le monde a besoin de vous.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.